Épître aux Romains, chapitre 7.
Lecture de la parole. Ignorez-vous, frères, car je parle à gens qui entendent ce que c'est que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car, quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne. Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi le péché est mort. Or moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi je mourus, et le commandement qui était pour la vie a été trouvé lui-même pour moi pour la mort. Car le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduisit, et par lui me tua. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Qu'ainsi n'advienne. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devint par le commandement excessivement pécheur. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Or si c'est ce que je ne veux pas que je pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne. Or maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâces à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché.
Lecture de l'étude. L'apôtre, dans les chapitres précédents, a traité les deux grandes questions de la justification et de la délivrance. Il a développé les résultats de la mort et de la résurrection de Jésus en rapport avec ces deux questions. Après cela, il en vient à un nouveau sujet de la plus grande importance. Dieu avait autrefois donné ses commandements à l'homme. Ils étaient inviolables et s'appliquaient à tous les hommes sans distinction. Ils étaient destinés en premier lieu au peuple d'Israël, mais renfermaient cependant les justes exigences de Dieu envers sa créature, envers l'homme dans son état naturel. Tout homme qui en avait connaissance était tenu de leur obéir, et ils ont encore aujourd'hui pour l'homme toute leur force. Voir 1 Timothée 1, versets 8 et 9.
Mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs.
Le Dieu saint ne peut pas réduire ses exigences ni amoindrir ses droits. Or l'apôtre avait dit, peu auparavant, que les croyants n'étaient pas sous la loi mais sous la grâce. Comment fallait-il expliquer cette contradiction en apparence insoluble? Il avait démontré de la manière la plus claire qu'il n'était pas sans loi, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas suivre leur propre volonté, leurs penchants et leurs convoitises. Comment donc avait-il été délivré des malédictions de la loi et de sa domination? La réponse est courte et simple. C'est, comme dans les chapitres 5 et 6, par la mort. Ignorez-vous, frères, car je parle à gens qui entendent ce que c'est que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 1. Lorsqu'un meurtrier condamné à mort a été exécuté, il n'a plus rien à faire avec la loi qui l'a condamné à mort. Elle a été satisfaite et sa justice a été accomplie. Que pourrait faire encore la loi envers un homme mort? Ainsi donc, le croyant aussi est mort, et cela avec celui qui fut fait péché pour lui à la croix, et qui porta pour lui la malédiction d'une loi violée. Il est donc mort, mort à la loi, et il possède une nouvelle vie en Christ le ressuscité, et dans cette vie, il peut par la foi tenir pour juger la chair qui est toujours disposée au péché, et se tenir lui-même pour mort au péché. Avant d'aller plus loin, nous nous occuperons encore un instant du mot « loi ». Nous le rencontrons dans notre chapitre avec des significations diverses. Au verset 2, il nous est parlé, par exemple, de la loi du mari. Au verset 21 et 23, d'une autre loi, la loi du péché, qui est en opposition avec la loi de l'entendement, chez celui qui est né de nouveau. En outre, l'apôtre dit au verset 1, « Je parle à gens qui entendent ce que c'est que la loi. » Il ne parle pas de la loi de Sinaï, mais de la loi dans le sens général. En d'autres mots, en d'autres termes, c'est comme s'il disait « Je parle à des personnes qui savent ce que signifie le mot « loi ». La loi, dans ce sens général, est une règle invariable, un principe ferme auquel les choses ou les hommes sont soumis. L'expression « loi de la nature » nous est connue. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en rapport avec l'homme, des lois qui mettent sur lui des obligations auxquelles il ne peut se soustraire. Quiconque donc sait ce que c'est que la loi, sait aussi qu'un homme mort est en dehors du domaine de toutes les lois. La loi de Sinaï également ne peut dominer sur lui que pendant qu'il vit. La mort supprime toute obligation de sa part. L'apôtre explique cela encore plus en détail en se servant de l'exemple de la loi du mari. Il dit « Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi, tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. » Versets 2 et 3. La pensée est si compréhensible et si simple qu'elle n'a pas besoin d'explication. On se demande, comment était-il et est-il encore possible qu'on ait essayé, déjà au temps de l'apôtre, de placer de nouveau le chrétien sous la loi ou de mélanger Christ et la loi, c'est-à-dire, à côté de la justification par Christ, d'en exiger une autre légale. Avoir deux maris en même temps, c'est commettre adultère. De même, nouer toute autre relation en dehors de Christ, c'est lui être infidèle. Si la loi était autrefois mon mari, ce n'est plus le cas pour moi, maintenant que je suis chrétien. La mort a aboli pour toujours l'ancienne relation, si bien que je puis appartenir à un autre mari, et ce mari est Christ. Dans la mesure où je me sentais sous l'ancienne relation misérable et pauvre, car plus j'essayais de faire ce qui était en mon pouvoir, plus le premier mari me condamnait et me punissait, dans cette même mesure je me sens bien et riche dans la nouvelle relation en Christ, le second mari. Cette nouvelle relation est caractérisée dans le 8e chapitre par deux choses précieuses. En elle, il n'y a plus aucune condamnation, verset 1, et toute séparation est impossible, verset 35 à 39. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu, verset 4. La grâce retire ainsi le chrétien, même s'il était autrefois juif, de son ancien état de choses, et l'amène dans une toute nouvelle relation, fondée sur la mort de Christ, dans laquelle il peut porter du fruit pour Dieu, ce qui lui était auparavant absolument impossible. Remarquons, cependant, que l'apôtre, en faisant l'application de l'exemple, renverse les rôles. Ce n'est pas l'ancien mari, la loi, qui est mort, ce qui serait tout à fait impossible. Mais c'est nous, qui vivions autrefois dans la chair, qui avons été mis à mort, à la loi, par le corps du Christ, c'est-à-dire dans sa mort. Étant morts avec lui, nous sommes délivrés de notre ancienne obligation pour lui appartenir à lui seul, et cela non pas de nouveau dans un esprit légal quelconque, mais lui étant entièrement soumis, comme s'il était notre mari légitime, le contemplant lui seul et apprenant de lui. Le chrétien ne peut nullement servir deux maîtres, soit Christ et le péché, chapitre 6, soit Christ et la loi, chapitre 7. Pour lui, vivre, c'est Christ, Philippiens 1, verset 21.
Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain.
Ce n'est qu'ainsi qu'il peut réellement porter du fruit pour Dieu. En ne marchant pas selon la chair, mais selon l'esprit, il fait plus que ce que la loi exige. Voir chapitre 8, verset 4.
Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit.
Or, nous pourrions de nouveau nous demander si de cette manière la loi n'est pas affaiblie et si son autorité n'est pas détruite. Nullement. Voir chapitre 3, verset 27.
Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi.
Les exigences de la loi sont pleinement satisfaites, car le péché a été puni en Christ à la croix, et moi, le coupable, je suis mis à mort avec lui. Le jugement de la loi a ainsi été exécuté. Le croyant, comme l'apôtre l'exprime en Galates 2, verset 19, par la loi est mort à la loi.
Car moi, par la loi, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu.
Dieu lui-même a préparé ce moyen légitime pour nous délivrer de la loi, un moyen qui nous sort entièrement et à toujours de son domaine. La loi subsiste, cela va sans dire, après comme avant, dans sa sainteté et sa justice inviolable. Mais nous n'avons plus rien à faire avec elle. C'est là l'enseignement au sujet de la position dans laquelle le croyant est amené. Or, que dit notre expérience de cela? Au lieu de contredire ce qui vient d'être dit, elle confirme plutôt le principe important de notre état de mort avec Christ et de la délivrance de nos âmes de la loi. Car, quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être, versets 5 et 6. Quand nous étions dans la chair, que veut dire l'expression « être dans la chair » nous la rencontrerons encore à diverses reprises. Être dans la chair signifie être devant Dieu sur le terrain ou dans la position du premier Adam, et selon cette position, être responsable vis-à-vis de lui. Il ne s'agit pas de la mesure plus ou moins grande de la culpabilité personnelle, mais de l'état de péché dans lequel nous nous trouvons tous par nature, du joug du péché sous lequel nous sommes tous. Nous étions autrefois, pour nous servir de l'exemple du chapitre, unis maritalement à la loi. Or, comme cela nous est suffisamment connu, la loi défend bien le péché et l'impute aux transgresseurs, mais elle ne donne aucune force pour l'observation des commandements. Au contraire, elle donne l'occasion au péché d'agir en nous en disant « Tu ne convoiteras pas ». Elle réveille en nous les passions des péchés et les fait agir. Nous comprenons donc pourquoi l'apôtre dit que ces passions sont par la loi. N'oublions pas toutefois que la source de ces passions n'est pas dans la loi, elle est en nous, mais la loi opère et les fait agir. Si un maître d'école défend à ses élèves de griffonner sur les parois de la salle d'école, un grand nombre d'entre eux qui n'y avaient jamais pensé auparavant ont le désir éveillé de faire ce qui est défendu. Ou encore, si j'enferme un objet dans un tiroir et si je dis que personne ne doit savoir ce qu'il y a dans ce tiroir, chacun ressentira le désir d'ouvrir le tiroir. Tel était notre état, telle était notre triste position, mais Dieu soit loué, nous étions autrefois dans la chair, mais nous ne le sommes plus. Nous sommes, comme nous le verrons plus tard, dans l'esprit. Chapitre 8, verset 9.
Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui.
C'est là notre nouvelle position devant Dieu. La chair est bien encore en nous, et c'est pourquoi nous pouvons encore lui céder et même être charnels. Mais nous ne sommes plus dans la chair. 1 Corinthiens 3, versets 1 et 3.
Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas à la manière des hommes?
Et, bien que la chair soit encore en nous, nous ne sommes plus sous sa domination, et elle ne représente plus, comme autrefois, notre position devant Dieu. Autrefois, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres, et le fruit que nous portions était pour la mort. La loi ne peut pas agir autrement. Elle se montrera toujours comme au service de la mort et de la condamnation. Étant donc morts dans ce en quoi nous étions tenus, nous ne servons plus en vieillesse de l'être, mais en nouveauté d'esprit. La précieuse parole de l'apôtre en 2 Corinthiens 5, verset 17, a son application ici.
Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles.
Notre service ne consiste pas à accomplir par nos propres forces les exigences légales, mais à suivre Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Participant à la nature divine et à la vie de Christ, nous pouvons, étant conduits et fortifiés par l'Esprit, accomplir ce qui est agréable à Dieu. Or, si la loi a de tristes effets, si sous son autorité on ne peut porter de fruits que pour la mort, et s'il faut être entièrement dégagé d'elle pour pouvoir servir Dieu en Jésus-Christ, que dirons-nous donc? La loi est-elle donc péché? Verset 7. On conçoit facilement cette question, mais l'apôtre montre dans les versets suivants que non seulement cela n'est pas le cas, mais que précisément la loi a mis en lumière le fait que le péché habite en nous, et qu'en même temps elle nous a montré ce qu'est le péché. Une conscience sincère sait qu'il est mal de jurer, de mentir, de voler, etc., et elle condamne ces choses. Mais aucun d'entre nous n'aurait reconnu le péché comme étant la source mauvaise qui est en nous, notre état de pécheur, si la loi ne lui avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Ainsi donc, par ce moyen, s'est manifesté d'une part le vrai caractère de la loi, d'autre part le péché dans toute sa laideur. Le sujet qui est devant nous a donné lieu aux explications les plus contradictoires, car les commentateurs, ne connaissant pas la vraie position du chrétien, ne comprenaient rien à sa délivrance du péché et de la loi. La principale difficulté gît en ceci que certains d'entre eux pensaient que l'apôtre parle d'un homme sincère, mais encore inconverti. D'autres, il décrit les expériences que doit faire un chrétien. D'autres enfin qu'il dépeint ses propres expériences avant et après sa conversion. On va me trouver peut-être prétentieux si je réponds qu'à mon avis toutes les trois explications sont erronées, mais si mes lecteurs laissent agir sur leur cœur sans préjugés les paroles de l'apôtre, je crois qu'ils me donneront raison. Il ressort clairement du verset 9, d'abord, que l'apôtre ne parle pas de lui-même. Comment se pourrait-il que l'ancien pharisien et ardent défenseur des exigences de la loi dise de lui « Or moi, étant autrefois sans loi, je vivais ». En outre, en comparant le 14e verset de notre chapitre avec les versets 14 et 18 du 6e chapitre,
chapitre 7, verset 14, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché ». Chapitre 6, versets 14 et 18. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice.
Et de même le verset 19 à tout le chapitre 6 et au verset 4 du chapitre 8.
Chapitre 7, verset 19. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Chapitre 8, verset 4. Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit.
Nous trouvons une preuve irréfutable qu'il ne peut pas être question des expériences que fait normalement un chrétien. Nous pouvons bien supposer qu'il a fait pour un temps des expériences analogues, car seul celui qui les a faites peut les décrire comme l'apôtre le fait, mais dans tous les cas ce ne sont pas des expériences faites postérieurement dans sa vie et qui pourraient ainsi servir de règle à un chrétien. Finalement, ce n'est pas d'un homme inconverti que l'apôtre parle, car un tel ne pourrait pas dire « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur », verset 22. Nous pouvons bien trouver de pareilles expressions dans des écrits humains, même chez des philosophes païens, mais une âme inconvertie, dont l'esprit et la volonté ne sont pas encore renouvelés, ne connaît rien de l'homme intérieur qui trouve son plaisir dans les commandements du Seigneur. De qui parle donc l'apôtre ? Il parle d'une âme née de nouveau, ou, dans le sens de l'Écriture, d'une âme convertie qui possède la vie de Dieu, mais qui n'a pas encore connu et saisi par la foi la justice de Dieu révélée dans l'Évangile, ni les précieuses conséquences de l'œuvre de Christ, et qui, pour cette raison, n'est pas encore scellée du Saint-Esprit. Il parle d'un homme de Dieu, et qui est plein de zèle pour les justes et saintes exigences de Dieu, mais qui n'a pas de puissance pour les accomplir. Peut-être, objectera-t-on, mais on ne peut pourtant pas appeler un homme converti. Non, pas dans le sens dans lequel nous sommes habitués à employer ce mot. Lorsque nous disons « tel ou tel est converti », nous voulons dire que c'est une personne sauvée, assurée de son salut et sachant qu'elle est enfant de Dieu. Or l'Écriture ne parle pas ainsi. La conversion, d'après l'Écriture, c'est le retour, mais ce n'est pas encore la certitude de la délivrance. L'enfant prodigue était converti lorsqu'il se leva pour aller vers son père et pour lui dire « J'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne, etc. » Or, il voulait devenir un mercenaire. Il ne savait pas ce que son père était pour lui, malgré sa triste vie écoulée, et qu'il ne pouvait le recevoir que comme fils dans sa maison. Ce ne fut que dans les bras de son père qu'il eut l'assurance d'être reçu par lui et du pardon de ses péchés. Ainsi, entre la conversion ou le réveil de la conscience, comme nous avons l'habitude de dire, et l'acquisition de l'assurance du salut, il se passe le plus souvent, pas toujours, un temps plus ou moins long. L'apôtre parle de ce temps, ou plus exactement d'une personne qui traverse ce temps après avoir été véritablement réveillée par Dieu, c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas seulement touchée dans ses sentiments, mais qui est revenue de son égarement. Aussitôt qu'on a compris cela, les difficultés de notre chapitre s'éclaircissent d'elles-mêmes. Mais demandera-t-on, est-ce que beaucoup de vrais chrétiens, jeunes et vieux, qui étaient pleinement assurés de leur délivrance et d'être enfants de Dieu, n'ont pas passé par les expériences décrites en Romains 7? Est-ce que cela n'est pas arrivé à la plupart d'entre nous? Nous devons répondre oui, mais seulement à cause du penchant presque toujours légal de nos cœurs. La plupart d'entre nous ne se laissent enseigner que par ces expériences douloureuses. On sait et on confesse que l'on est mort avec Christ et en lui, mais malgré cela, on n'est pas affranchi. On agit comme si l'on vivait encore dans l'ancien état et comme s'il y avait encore quelque chose de bon à attendre de la chair. De plus, beaucoup d'âmes ont la pensée que, parce que le chapitre 7 des Romains vient après les chapitres 5 et 6, les expériences décrites dans le chapitre 7 doivent suivre la justification, chapitre 5, et la délivrance, chapitre 6. Ils tiennent cela comme une suite dans ces chapitres, établis divinement. Or, cette conclusion est fausse. Il en est du chapitre 7 comme de la loi qui intervient dans un but déterminé. Cette conclusion met dans l'embarras bien des âmes sincères qui ne sont pas encore affermis dans la vérité et qui ne marchent pas comme elles le désireraient et selon la pensée de Dieu. Elles ont alors des doutes et se demandent si elles ne sont pas hypocrites, si elles ne se sont pas trompées et si peut-être elles ne sont pas encore converties. Elles ont un sérieux désir qu'il en soit autrement, mais souvent mal enseignées, elles abandonnent sans le savoir le terrain de la grâce, elles suivent celui de la loi, et elles font tout dépendre de leur conduite et de ce qu'elles sont en elles-mêmes devant Dieu.
Quiconque a réellement compris l'enseignement de Romains 5 et 6 ne sera plus en danger de se fatiguer par des efforts inutiles pour obtenir, par ses propres forces, une justice devant Dieu.
Il sait que le corps du péché a été annulé, que la grâce règne maintenant par Jésus-Christ et l'a délivré de ce en quoi il était autrefois retenu. Encore un point. Nous avons déjà dit que seul un homme qui a passé par l'état douloureux de Romains 7 et qui en est sorti peut dépeindre cet état tel qu'il est décrit ici. Un homme qui se trouve enfoncé dans un marécage ne peut pas exprimer ses sentiments avec un tel calme. Dans la terrible situation dans laquelle il est, il ne peut que crier au secours.
Tout effort est inutile.
La situation empire à chaque mouvement qu'il fait. S'il lève un pied pour atteindre la terre ferme, il s'enfonce avec l'autre encore plus profondément. C'est pourquoi on peut bien comprendre son cri de désespoir, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera ?» Remarquons aussi ici que dans tout ce chapitre, il n'est question ni de la grâce, ni de Christ, ni du Saint-Esprit, mais seulement de la loi, de la puissance du péché, de l'impuissance et de la perversité de la chair et des vains efforts pour en se sortir de la lamentable position dans laquelle on se trouve. Christ n'est introduit qu'au dernier verset, après que le cri de désespoir a retenti, comme le seul refuge et l'unique salut pour le prisonnier de la loi du péché et de la mort. Christ est l'unique réponse, pleinement suffisante à la question « Qui me délivrera ?» Nous avons devancé le cours de notre chapitre. Revenons aux versets 7 à 11. Après avoir réfuté la pensée que la loi est péché, l'apôtre ajoute « Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Ainsi, l'excellence de la loi est fatale aux pécheurs. Déjà, au troisième chapitre, l'apôtre avait dit « par la loi et la connaissance du péché ». Ici, je n'aurais pas connu le péché, je n'aurais rien su de la convoitise si la loi ne m'eût pas ouvert les yeux. C'est par la loi que le péché et la convoitise sont démontrés et connus dans leur vrai caractère. Le péché ici est en quelque sorte personnifié. Il apparaît comme une puissance qui habite dans la chair et qui est en opposition à Dieu et à sa loi. Il agit et fait précisément ce que la loi défend et le fait parce qu'elle le défend. La convoitise est le penchant ou le désir qu'éprouve la chair. Comme ici, il ne s'agit pas d'établir la culpabilité de l'homme, mais de manifester sa mauvaise nature récalcitrante. L'Esprit Saint choisit le dernier commandement, « Tu ne convoiteras point », comme étant la plus propre à démontrer la présence de ce mauvais principe dans l'homme, à savoir le péché, car sans loi le péché est mort, mais ayant trouvé une occasion par le commandement, il a produit en moi toutes les convoitises, verset 8. La loi n'a pas seulement établi les devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu et de son prochain, mais en plaçant devant lui le commandement « Tu ne convoiteras point », elle lui a donné une pierre de touche infaillible qui établit son état devant la loi. Le péché était là, mais à l'état de mort. Aussi longtemps qu'un homme ne faisait rien qui fût interdit par sa conscience, il n'avait aucun sentiment du péché et ne connaissait pas la sentence de mort. Il ne savait rien non plus de la présence de la convoitise en lui-même. Ce n'est que par la loi qu'il apprit à connaître cette présence, ainsi que les désirs condamnables de son cœur. En même temps, il apprit aussi que c'était précisément le commandement qui éveillait en lui cette envie de faire ce qui était défendu. En d'autres termes, il apprit que sa nature est mauvaise et une source de mal. Nous comprenons maintenant aussi les paroles suivantes de l'apôtre. Or moi, c'est-à-dire l'homme dans son état naturel, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, verset 9. Au lieu de donner à l'homme la force de réprimer la convoitise, d'améliorer la chair, la loi n'a fait que dévoiler sa complète perversité.
Ce dont l'homme a besoin, c'est d'une nouvelle nature et d'un état qui le transforme entièrement.
Or la loi ne lui donne ni l'un ni l'autre, tandis que la grâce lui révèle les deux en Christ. Et moi je mourus, et le commandement qui était pour la vie a été trouvé lui-même pour moi pour la mort, verset 10. La loi disait, celui qui aura fait ces choses vivra par elles, Galates 3, verset 12.
Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elles.
Comme je ne les ai pas faites, mais au contraire, le commandement n'a fait qu'éveiller fortement en moi la convoitise et les désirs de ma chair. Ainsi, la loi s'est manifestée pour moi un instrument de mort. Elle a amené sur moi, à juste titre, la mort et la condamnation, et ma conscience réveillée ne peut que constater sa sentence. Et moi, je mourus. Quel résultat ! Qui emporte la responsabilité? La loi? Non, mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduisit, et par lui me tua, verset 11. Ainsi, la loi est bien, comme nous l'avons dit, devenue un instrument de mort pour moi, mais la cause de tout, c'est le péché qui habite en moi. Il m'a apporté la mort par la loi. L'apôtre développe encore cette pensée depuis le 12e verset jusqu'à la fin du chapitre, en montrant d'une façon saisissante par les expériences pratiques d'un homme converti, mais pas encore affranchi qui veut le bien et hait le mal, comment la loi en réalité ne conduit l'homme qu'à la mort, mais aussi comment la grâce de Dieu lui apporte la délivrance et l'affranchissement.
La loi donc est sainte, et le commandement est saint et juste et bon, verset 12. Tous ces commandements sont saints et bons. Ce n'est pas à elle que cela tient, si elle ne peut produire aucun résultat, mais à la nature de l'homme à qui elle s'adresse. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Qu'ainsi n'advienne. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devint par le commandement excessivement pécheur, verset 13. La folie de l'homme pose toujours à nouveau ces questions. Non, le but de la loi n'était pas de me faire mourir, si juste que soit sa sentence à mon égard. elle avait un tout autre but. Nous avons déjà vu au chapitre 5, verset 20, qu'elle est intervenue afin que la faute abondât. Ici, afin que le péché soit manifesté dans son plein caractère, qu'il parût péché, oui, qu'il devint par le commandement excessivement pécheur. L'apôtre démontre la douloureuse réalité de ce qui vient d'être dit en dépeignant à partir du verset 14 les expériences pratiques d'un homme renouvelé, expériences qui l'amènent à la connaissance terrifiante qu'en lui, c'est-à-dire dans sa chair, il n'habite point de bien, verset 18. Il dépeint ses expériences telles qu'elles se présentent à lui, homme entièrement affranchi, qui considère avec calme les combats d'une âme sous la loi, et peut les juger justement, parce qu'il sait, étant enseigné de Dieu, ce que sont la loi, le péché et la chair. Il commence par ces mots, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché », verset 14. Mentionnons ici, en commençant, la grande différence qui existe entre les expressions « nous savons » et « je sais ». Pour parler brièvement, disons que la première indique une connaissance chrétienne générale, la seconde une expérience personnelle. Nous, c'est-à-dire tous les chrétiens, nous savons avec Paul que la loi est spirituelle. Or, que dit à cela l'expérience de l'individu? Il n'est pas dit dans notre passage « nous savons que la loi est spirituelle et que nous sommes charnels, mais je suis charnel, vendu au péché ». L'âme individuelle qui se place sous la loi, et cela non pas seulement sous ses commandements directs, mais aussi sous la condamnation des sources du mal dans le cœur, une telle âme est amenée à reconnaître qu'elle est semblable à un esclave vendu au péché, alors même qu'elle hait le péché et aime la loi de Dieu. La loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. La loi m'ordonne, tu ne convoiteras point, et moi je me trouve dans un tel esclavage du péché que le commandement ne fait qu'éveiller en moi la mauvaise convoitise. Quel contraste! L'âme les reconnaît franchement, et ce qui l'amène à cela, ce sont les expériences qu'elle fait dans le chemin dépeint au verset 15 à 23. « Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. » Verset 15. Le désappointement est grand. Au lieu de trouver, après sa conversion, le soulagement, la paix et la joie, le pauvre homme doit découvrir qu'il y a en lui une puissance dont il ne peut se délivrer et qui l'empêche d'accomplir le bien qu'il voudrait faire. Il reconnaît que la loi est bonne en exigeant le bien et en condamnant celui qui fait le mal. Or, à quoi lui sert cette connaissance et quel profit a-t-il de reconnaître le bien s'il fait le contraire? Sa volonté est, il est vrai, renouvelé. Il aime le bien et il fait les plus grands efforts pour l'accomplir. Mais il doit expérimenter qu'il n'a aucune force pour cela, que c'est plutôt le péché qui règne sur lui. Il ne désire nullement affaiblir ou limiter les exigences de la loi, car elles sont justes, saintes et bonnes, mais vis-à-vis d'elles, il se trouve sans force. La faute n'en est pas à la loi, mais au péché de l'homme. Or, il est assurément vrai que si selon mon nouvel homme je désire faire le bien, et si cependant je fais le mal, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi, verset 17. Mais quelle consolation cela me donne-t-il? Cette connaissance démontre précisément l'esclavage dans lequel je me trouve. Si moi-même je ne pratique plus le mal, mais si c'est le péché qui habite en moi, je me laisse asservir par lui contre ma volonté, et je ne puis pas me libérer de sa puissance. Je reconnais et je confesse que le péché est excessivement mauvais et laid, et je lui suis pourtant entièrement soumis. J'aimerais servir Dieu, et j'emploie toutes mes forces à atteindre ce but. Mais toutes mes bonnes résolutions et mes efforts échouent devant la puissance irrésistible du péché qui me tient dans ses liens. Plus je suis sincère, et plus mes efforts sont sérieux, plus aussi mon état est désespéré. Le péché se montre ainsi que mon asservissement à sa puissance. Ainsi, grâce à mes expériences, j'en viens à cette conclusion évidente mais terrible. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, comme venant d'Adam, il n'habite point de bien, car quoiqu'il existe en moi une sérieuse et sincère volonté, je ne trouve pas en moi l'accomplissement de ce qui est bien. La volonté est là, comme cela a été déjà dit plusieurs fois, mais la force manque. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Versets 18 et 19. Or, s'il en est ainsi, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 20. Ce qui a été déjà dit au verset 17 trouve sa pleine confirmation. Dans le chemin de l'expérience, le croyant a appris, outre la vérité, qu'il n'habite aucun bien en lui et qu'il est sans force pour accomplir le bien, qu'il doit faire une distinction entre son nouvel homme qui veut faire le bien et le péché qui habite en lui. En d'autres termes, qu'il y a en lui deux natures, deux moi. Il y a un premier moi, charnel, qui est vendu au péché, et un second moi qui n'est pas sa chair, mais l'homme intérieur renouvelé, qui est le péché. Ainsi, il est arrivé à cette connaissance que ce n'est pas le second moi qui fait le mal, mais le péché qui habite en lui. Ne connaissant pas, ou ne comprenant pas la précieuse vérité qu'il est mort avec Christ, que le premier moi a été condamné à mort à la croix, le croyant, dans l'espoir de trouver encore quelque chose de bon dans sa chair, n'a pensé qu'à soi-même et à la loi. Les petits mots « je » et « moi » se retrouvent 40 fois dans les versets 7 à 24, tandis que le nom de Christ se trouve pour la première fois au verset 25. C'est une grande chose, si douloureuse qu'elle soit, d'apprendre ce qu'est ce propre « moi », ce que cela signifie d'être sous la loi, sans aucune force, et d'en venir enfin à détourner ses regards du vieux « moi » misérable, de renoncer à ses propres efforts et de diriger ses yeux sur Christ seulement. C'est le chemin béni sur lequel le croyant est amené dans la dernière partie de notre chapitre, mais dans lequel, malheureusement, tant de chers enfants de Dieu demeurent en arrière toute leur vie, et ainsi ne parviennent jamais à une vraie liberté et à une paix durable. Il n'est pas possible de trouver la paix en faisant des progrès graduels qui nous amènent à être contents de nous-mêmes. Non, le résultat d'un tel chemin, c'est la découverte que l'on a besoin de la délivrance qui a été opérée par l'œuvre de Christ. Bienheureuse est l'âme qui se laisse conduire jusque-là. Alors, au lieu de la détresse et du désespoir, apparaissent un heureux repos, la joie et une reconnaissance pleine d'allégresse. Occupons-nous toutefois un peu plus en détail du contenu des versets 21 à 23. Je trouve donc cette loi pour moi qui veux pratiquer le bien, que le mal est avec moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, une loi d'une autre espèce. Au commencement de notre chapitre, nous avons déjà parlé en détail des diverses significations du mot « loi », de sorte que nous n'avons pas besoin d'y revenir. Le croyant est ainsi sur le chemin de l'expérience, parvenu à reconnaître qu'il se trouve soumis à un principe, à une règle absolument déterminante pour lui, à savoir que le mal est en lui, et que tout en voulant faire le bien, il ne peut pas échapper au mal, malgré tous ses efforts. Il trouve son plaisir en la loi de Dieu et en ses cinq commandements. Il est aussi fermement décidé à les accomplir, mais il voit dans ses membres une autre loi qui est en opposition avec la loi de son entendement, renouvelée, et qui le rend captif de la loi du péché qui existe dans ses membres, verset 23. Nous voyons confirmer de nouveau que notre chapitre ne parle pas de la question de culpabilité, mais du péché comme principe ou puissance, ainsi que du manque absolu de force pour lui résister. En même temps, nous n'avons pas devant nous un homme dans les ténèbres de son état naturel, mais une âme renouvelée qui combat de toute sa force pour obtenir la victoire sur le mal, mais qui doit apprendre que tout se termine pour elle par une captivité désespérante, verset 23. Elle doit reconnaître que, malgré sa nouvelle naissance, une puissance agit dans ses membres, puissance à laquelle elle ne peut pas résister, tout en la haïssant et en cherchant à se débarrasser de son influence. Néanmoins, l'âme fait des progrès, quand bien même les ténèbres paraissent devenir toujours plus épaisses autour d'elle. À mesure que le combat devient plus ardent, la connaissance intérieure croît et la lumière commence à se faire, mais comme toujours, ici aussi, l'obscurité la plus profonde précède le lever du jour. Complètement abattu, ne voyant plus aucune issue, l'homme, dans l'angoisse de son âme, s'écrie enfin « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Verset 24. Le texte original accentue ici spécialement le mot « homme ». L'âme a le sentiment du misérable état de l'homme. En dépit du renouvellement de sa volonté et de la connaissance de ce qu'il devrait être selon la loi, le croyant n'est pourtant qu'un homme, c'est-à-dire un être en chute, avec ses mauvaises convoitises, vendu au péché et sans aucune force pour vaincre le mal. L'expression « ce corps de mort » désigne d'une manière frappante l'état irrémédiable dans lequel il se trouve. Or, si la grâce, car c'est elle qui, sans qu'il s'en doute, s'occupe de lui, l'a amené à reconnaître clairement ce qu'il est, elle ne l'abandonne pas à lui-même, mais elle achève son œuvre en détournant ses regards de sa personne et en les dirigeant sur Dieu, elle lui montre le sauveur qu'il cherche dans son désespoir. « Je rends grâces à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Telles sont les paroles qui se trouvent subitement sur les lèvres de celui qui était rempli, peu de temps auparavant, d'angoisse et d'effroi. Comment cette merveilleuse transformation a-t-elle été opérée? Par le fait simple, mais si important, que cet homme ne regarde plus à ce qu'il est pour Dieu, pour trouver en soi de la satisfaction, mais que ses yeux se dirigent sur ce que Dieu est pour lui, et ce qu'il est pour lui par Jésus-Christ. Combien tout est changé d'un seul coup. Ce n'est pas que le croyant soit maintenant ce qu'il aimerait être, ou que, désormais, tout combat est cessé pour lui. Nullement. Mais au lieu d'être, comme jusqu'ici, occupé de soi-même, il s'occupe de Dieu et rend grâce. Nous répétons encore une fois quel changement, et combien rapide. Le cœur est dirigé sur l'amour divin qui a donné le Fils unique pour des êtres si misérables, le Fils qui est devenu pour eux la source de la délivrance. Les regards sont portés sur l'œuvre qui a accompli la délivrance et sur lui, le libérateur. L'homme demandait auparavant « Comment puis-je m'améliorer? Que puis-je faire pour satisfaire Dieu et pour trouver le repos de mon âme ?» Maintenant, il demande « Qui me sauvera, moi, l'être misérable et sans force ?» Qui me délivrera de ce corps de mort? Affaissé sous le terrible poids de la découverte que, en dépit de tous ses soupirs, de ses prières et de ses supplications, il ne fait que commettre faute sur faute et ne rencontre que déception sur déception, il finit par s'abandonner enfin lui-même comme étant irrémédiablement mauvais, et il reconnaît en Christ celui qui, non seulement a payé sa dette, mais est devenu aussi son libérateur du terrible état de mort dans lequel il se trouvait. c'est en réalité une délivrance digne de celui qui l'a accomplie. Or, est-ce qu'avec cette délivrance, la chair se trouve changée ou même éloignée du croyant? Ne porte-t-il plus en soi les deux natures dont nous avons parlé? Ce serait une illusion néfaste de penser une telle chose. Et l'Esprit de Dieu a pris soin de nous en garder, en plaçant immédiatement dans la bouche de l'apôtre les paroles suivantes. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché, verset 25. Cela ne veut naturellement pas dire que ces deux services doivent toujours exister l'un à côté de l'autre, et que c'est un état normal, mais bien plutôt que les deux natures, avec leurs penchants caractéristiques correspondants, demeurent après comme avant et resteront en nous jusqu'à la fin. Dans le ciel, nous ne porterons plus en nous la vieille nature, la chair. Nous serons délivrés d'elle pour toujours, mais aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, elle reste avec nous, et chaque fois que nous la laissons agir, nous servons de la chair la loi du péché. Dieu soit loué de ce qu'en Christ nous sommes délivrés dès aujourd'hui de sa puissance, et étant morts avec lui, nous ne sommes plus sous la loi. Nous pouvons dire avec Pierre, « Il nous suffit d'avoir accompli dans le temps déjà écoulé la volonté des nations. Ce que nous désirons est de vivre le reste de notre temps dans la chair pour faire la volonté de Dieu. » Voir 1 Pierre 4, versets 1 à 3.
Christ, donc, ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Car il nous suffit d'avoir accompli, dans le temps déjà écoulé, la volonté des nations, alors que nous marchions dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les excès dans le manger et le boire et les criminelles idolâtries.
Il ne peut pas en être autrement là où la vie divine agit. Le besoin de la nouvelle nature, son ardent désir, c'est de servir la loi de Dieu, d'accomplir sa volonté, et combien c'est beau. C'est là ce que le croyant reconnaît et peut reconnaître comme son vrai moi. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu. Certes, le combat ne cesse pas. Il restera toujours vrai que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair et que ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. Mais si nous marchons par l'esprit, nous pourrons faire l'expérience que nous n'accomplissons pas la convoitise de la chair. Au lieu d'accomplir les tristes œuvres de la chair, ce sera le fruit précieux de l'esprit que nous produirons à la gloire de Dieu. Car, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, c'est-à-dire dans le triste état décrit en Romains 7. Et ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Voir Galates 5, versets 16 à 25.
Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit.
Il n'est cependant pas question du tout dans le verset final de notre chapitre de la puissance qui rend désormais le croyant capable de servir, de son entendement, la loi de Dieu. Il nous fait seulement connaître la délivrance de l'âme de l'état dans lequel elle se trouvait et nous dépeint le terrain entièrement nouveau sur lequel la grâce l'a placé, ainsi que le caractère et l'esprit de la nouvelle nature. Pour terminer, récapitulons encore une fois brièvement les vérités que nous avons apprises dans cet intéressant septième chapitre. Premièrement, la délivrance de la loi par la mort, versets 1 à 6. Deuxièmement, la connaissance du péché par la loi, versets 7 à 13. Troisièmement, l'état et les expériences qu'une âme renouvelée, mais qui n'est pas encore affranchie, fait sous la loi, avant d'arriver à la délivrance. En rapport avec cette troisième vérité, nous avons encore appris trois choses importantes, que dans notre chair il n'habite pas de bien, que nous devons faire une distinction entre nous-mêmes qui voulons le bien et le péché qui habite en nous, que, aussi longtemps que nous n'avons pas saisi par la foi la délivrance en Christ, il n'y a pas de force en nous pour surmonter le péché dans la chair, et que c'est nous plutôt qui sommes toujours vaincus par le péché. Nous pouvons encore ajouter comme quatrième point, lequel est au fond déjà contenu dans la dernière vérité présentée, que nous ne pouvions pas nous-mêmes nous délivrer de ce misérable état, mais que c'est une autre personne qui a dû nous en délivrer.